Bonjour les bipèdes, bienvenue pour cette nouvelle émission de cette nouvelle saison, mon petit Néo, bonjour.
Eh bien bonjour, c'est la rentrée.
Ouais.
Et qui dit rentrée dit nouveau podcast.
Cartable.
Ah bah ok, oui, non, cartable si tu veux aussi. Ça fait un moment que j'en ai pas eu de nouveau, j'avoue.
Tu devrais.
Ah bon?
Ouais.
Ouais, écoute.
Bon,
c'est bizarre à mon âge quand même, c'est bizarre.
Et avec des nouveaux crayons et tout ça, et des nouveaux invités surtout.
Tout à fait, cette fois on continue la série jeux vidéo.
Ouais.
Et cette fois on reçoit deux artistes. Alors, FX, VFX, il y a tout un débat chez nous. Moi je dis VFX, mais le
moi,
doc
GFX.
Préfère dire FX parce que VFX il l'associe au live. Voilà, donc on est en compagnie de Baptiste et de Noé.
Bonjour.
Bienvenue messieurs.
Merci. Le sujet est intéressant, faudra qu'on en discute des termes, je pense que...
Mais on va en discuter.
Ah bah on en discute.
On est là pour ça.
Avec grand plaisir.
C'est vrai.
Exactement.
C'est vrai.
Voilà.
Avant de rentrer dans le vif du sujet...
Eh bah comme d'habitude de l'année dernière, et des années d'avant, et des années futures, probablement.
Voilà, profitons
de cette... La petite page de pub.
Profitons de cette belle rentrée pour vous rappeler que, évidemment, le plus important, c'est de parler du podcast pour partager au maximum ce que l'on fait, parce qu'on est là pour partager.
Et qu'on est nul en com'.
Surtout.
Vous êtes notre meilleur marketeur.
C'est ça. Et bah voilà, si vous avez envie de nous soutenir, bah il y a possibilité de faire des dons, il y a un Spreadshirt et il y a surtout un Patreon. Donc je le rappelle, vu que c'est la rentrée, je fais un petit tour, un petit rappel complet. Le Patreon, c'est quoi? Vous souscrivez à non pas un abonnement, mais à un prélèvement à l'émission.
Oui, monsieur. Voilà. En général, c'est une émission par mois, donc.
Oui, nous on est plutôt mensuel, donc effectivement, il faut s'attendre à ce que ce soit mensuel. Et donc nous, on a trois paliers. À 1€, 2,50€ ou 4,17€.
Oui. Ou peut-être 5€ à l'heure où.
Si on a réglé le truc, bah,
ouais,
ce c'est bizarre, c'est pas trop. Bon, normalement, c'est 5$, donc 4,17€, en tout cas, à l'heure à laquelle j'enregistre. Au pire, c'est 80 centimes de plus. Voilà. Sachant que, donc, pour ces paliers, vous avez droit aux émissions en avance, quel que soit le palier que vous prenez. Et ensuite, plus vous allez monter, plus vous allez avoir des petites choses comme l'accès au Discord, pouvoir poser des questions à nos invités. Nous donner des retours sur les émissions, des envies, etc. On essaie un petit peu de faire participer tous nos patriobipèdes dans
le
podcast.
Des petites goodies, et puis la possibilité de mettre, par exemple, votre démo dans les notes de l'émission, ou votre post, etc. Donc, pourquoi pas? Ça peut éventuellement débouler sur un boulot.
Exactement.
On n'en sait rien.
Exactement. Voilà.
Et puis, c'est bon. Et puis, il y a le PayPal aussi. Si
oui, bah,
voulez,
j'ai dit les dons, mais j'ai pas précisé, mais il y a
voilà.
Un PayPal, effectivement.
Et potentiellement. Pour cette année, nous ferons peut-être un palier supplémentaire pour les entreprises, pour que éventuellement des entreprises puissent nous donner peut-être un peu plus d'argent que pauvres intermittents du spectacle derrière vos écouteurs.
C'est hein, clair.
Nous vous comprenons, la lutte n'est pas terminée.
Merci énormément à ceux qui donnent déjà depuis pas mal de temps maintenant, plusieurs années pour certains.
Ben oui.
Vraiment, merci beaucoup.
Et effectivement, on les remercie beaucoup. Et donc, peut-être ce palier pour les nantis.
Exactement. Les nantais aussi, s'ils veulent. Voilà.
Voilà, ça c'est fait. D'habitude, c'est moi. Cette saison commence bien. Bon, alors, après toutes ces considérations...
Vas-y, mon petit doc.
Eh ben, c'est parti. On va faire péter les explosions, les slash, les jrouges, les boumf, mais sans le son, et mais que avec l'image.
Moins fun. Moins fun.
Non, c'est pas moins fun. C'est pas moins fun.
Est-ce que vous trouvez qu'il a bien résumé votre métier?
Je pense que oui. C'est assez précis.
Eh ben, on termine là. Merci. Non. Alors, bah, du coup, Baptiste, Noé, présentez-vous. Qui êtes-vous? Depuis quand vous... À quel moment, où et quand?
Ok, j'y vais.
Baptiste.
Bah, du coup, moi, c'est Baptiste. Je suis VFX artiste à EBI depuis 3 ans, à peu près. Bah, du coup, j'ai bossé sur Prince of Persia, comme Steve, et bah, comme Noé, du coup. Et ouais, ça fait 3 ans que je suis dessus. Avant, bah, j'ai juste fait un stage de 6 mois. Et sinon, je sortais d'école.
Ah oui, t'es rentré, genre, direct.
Ouais,
coucou,
j'ai eu beaucoup de chance. Pour le coup, bah, y a quelqu'un du projet qui est venu me chercher. Du coup, j'ai direct eu un job et je peux bien me plaindre. C'était très cool.
Tu as fait quelle école?
Alors, j'ai fait l'ISA, l'Institut supérieur des arts appliqués à Paris. J'ai fait 3 ans là-bas. C'était ce que c'était. j'ai pas envie de dire du mal, mais parce que j'ai eu des très bons profs, d'autres un peu moins bien. On va dire en l'état, les VFX, je les ai appris sur mon temps libre. J'ai eu quelques cours à l'école pour découvrir le truc, mais c'était pas ça qui a fait que j'ai pu être embauché en entreprise. Voilà, donc c'était très cool pour la motivation, pour découvrir d'autres gens du milieu, etc. Pour découvrir si je voulais faire du FX. Mais voilà.
Ok. C'était une formation spécifique aux jeux vidéo ou c'était plutôt anime
C'était la première année, c'était animation 2D. Après,
2D, ouais.
Ouais. Okay. Ouais. Ils font un truc très généraliste en première année, ce qui est très cool en soi, on apprend les bases.
Mm-hmm.
Ensuite, on se spécialise jeux vidéo. Et troisième année, je me suis spécialisé tech art. On n'a pas fait de tech art.
C'est quoi tech art exactement?
Technical artist.
Ouais, mais ça veut dire quoi en fait?
C'est très large.
Ouais.
Parce que tech art, ça se rapproche un peu de VFX artist techniquement. Tu vas faire beaucoup d'outils pour faciliter la vie des artistes ou pour faciliter des trucs procédurales.
T'es un peu plus dans le code, quoi, que dans la création.
C'est plus technique. C'est pas tout à fait TD, mais pas loin.
Pas du code, pas techniquement du code, mais beaucoup plus, ouais, technique.
Ok.
C'est assez flou et l'ampleur des tâches que tu prends dépend souvent des boîtes dans lesquelles t'es. Il y en a certains où c'est plus spécifique et d'autres où c'est beaucoup plus large, où globalement, si on sait pas le foot, à qui on le fout entre un testeur, enfin, programmeur et un artiste, on dit, ouais, ça c'est du taf de tech art, on met ça dedans. Mais ça dépend.
Le classique.
Je dis pas que c'est un métier fourre-tout et poubelle non plus, mais.
Oui, mais on en a beaucoup, hein. C'est vrai que.
Je pense que c'est un métier des plus importants pour le coup, ouais. Surtout pour l'optimisation, ce qui est tout le monde.
Et les bons tech art, ça te change un jeu.
Ah ouais.
On va en inviter des tech artistes.
Oui, ouais. Ce serait hyper intéressant, je pense. Pour
voilà.
Très bien.
Eh ben, c'est parti, c'est noté. Merci les garçons.
Noé.
Oui.
Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu?
D'où viens? Je suis pas sûr que la question soit si pertinente que ça, mais je suis breton.
Bon, ouais. Il y en a beaucoup qui diraient que c'est très important.
Exactement. Hein, ouais. Je suis obligé de le dire, c'est dans le contrat de Bretagne.
C'est honteux.
Sinon, je suis FX artiste aussi à Ubisoft depuis 2 ans. J'ai bossé chez. Sur BGE, maintenant sur Prince of Persia. Et avant, j'étais à Killotone, où j'ai fait aussi des effets spéciaux en tant que FX artiste, pendant 3 ans et quelques là-bas.
Dans le jeu vidéo aussi.
Dans le jeu vidéo aussi, absolument. C'était une boîte qui fait. C'est toujours une boîte qui fait des jeux de voitures, principalement.
D'accord.
Et souviens-toi, on en avait parlé avec l'émission sur la prod avec Marie.
Ah oui, déjà? C'était il y a 4 mois.
Oui, c'était. Oui, t'as fait du bocal entre temps, je comprends bien.
Ok, je me souvenais pas qu'on avait parlé de Killotone. Tiens, ok, très bien. Très bien, très bien.
Et voilà, et avant, je faisais d'autres choses. J'ai eu un petit moment d'errance avant de revenir dans le jeu vidéo. Et avant, j'étais de retour dans le jeu vidéo, mais ce coup-ci, j'étais pas en tant qu'FX artiste, j'étais en tant que cinématique designer.
Ok, voilà. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je faisais de la réalisation pour des cinématiques.
Stylé.
C'était chez Big Bad Wolf, qui à l'époque n'était pas indépendant, je crois, mais qui était une branche de Cyanide. Et j'ai bossé sur The Council. Je sais pas si vous voyez, c'est un jeu qui est énormément rempli de cinématiques. C'est un jeu à choix, la Telltales, sauf que les choix ont vraiment des conséquences. Et il y avait des cinématiques partout. Et donc, du coup, on était pas mal à faire des cinématiques dedans. Et
cool.
Avant ça, je faisais mes études.
Normal.
Voilà.
Dans quelle école, du coup?
J'étais à l'ESRA, Bretagne.
Ok. Toi, j'ai fait l'ESRA aussi, à Paris, moi, pour le coup.
Voilà.
Mais...
Nous, c'était le spin-off.
Le spin-off au Queen Yaman.
Exactement, en filière du coup, réalisation de films d'animation.
Mais dans la branche 3D du coup.
Dans la branche 3D.
Dans la branche, ouais, ok.
Mais ce qui fait que j'ai un diplôme de réalisateur de films d'animation, pas du tout de FX artiste.
Ça pète.
Ouais.
Et pourquoi on appelle ça cinématique designer du coup et après on ira sur le VFX.
Parce qu'on designait les cinématiques, je sais pas vraiment.
Ouais, c'était un terme générique parler, mais.
Ce qu'on faisait vraiment, c'était vraiment la partie réalisateur. C'était les placements des caméras, les angles, ce qu'on voulait montrer, les placements des animations, etc. Mais les animations, c'était pas nous, les textes, c'était pas nous, c'était vraiment la réal qu'on faisait. Et je sais pas pourquoi ils ont pas utilisé le terme cinématique réalisateur.
Director.
Parce que t'avais un réal en plus avec toi
Il y avait un réal en plus, qui était le game director, quoi. Mais
Ok. Ouais, logique, tant mieux. Ok, très bien. Très bien.
Et ta formation, du coup, a été animation?
Alors,
essentiellement, ou un peu de jeux vidéo
Alors, pas du tout de jeux vidéo.
Okay.
Pas du tout de jeux vidéo, cinéma d'animation, et du coup, un peu de tout, un peu de modélisation, un peu d'animation, un peu de rendu.
Oui, généraliste, quoi, au final.
Ouais, et vu que c'était une école de cinéma, il y avait aussi des trucs, beaucoup de choses d'histoire du cinéma, de ce genre de choses.
Ouais, l'ESRA, c'est une école qui forme un peu à tout en même temps. Il n'y a pas forcément une spécialisation comme à l'ESMA aujourd'hui. où tu vas vite devenir lighter, etc.
Dans les deux dernières années, par exemple, tu vas plus te spécialiser sur...
Je crois qu'ils ont fait ça maintenant.
Ouais. Ah ouais?
Depuis que je suis parti, je sais qu'ils ont même ouvert une branche FX à l'intérieur.
Ah ouais, carrément.
Enfin, j'ai entendu parler de ça.
Ok.
Je me trompe.
C'était combien de temps, du coup?
C'était il y a combien de temps?
Ouais. Il n'y a pas d'attaque.
Je crois que je suis rentré en 2013,
2012. Il y a...
J'ai fini que dans 3 ans.
12 ans, ouais.
Ouais, 12 ans.
Bon voilà. Par là, quoi.
Par là, voilà. Et okay. Du coup, rien à voir avec les FX là-bas. Et c'est en sortant de la boîte, je me suis dit que je prenais le premier taf que je trouvais, ce qui a fait Cinematic Designer.
Mm-hmm.
Et je suis parti parce que ça ne me plaisait pas, ça ne me correspondait pas. Et du coup, je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est les FX.
Pourquoi il y a... Qu'est-ce qui t'a... Quel est le truc où tu t'es dit, putain, il y a un film, un jeu un...
Même pas, le chaos, je pense.
Ouais.
L'amour du chaos, de la destruction. C'est pas
un bon dévin, et hop, voilà, c'est du FX.
Et en fait, à la base, je ne savais pas si je voulais aller dans le jeu vidéo ou dans le... ou dans le précalculé.
Ouais.
Du coup, je me suis formé sur les deux en parallèle. J'ai fait beaucoup d'Houdini, beaucoup de choses dans le genre, et du temps réel aussi. Et je me suis dit, je vais faire un CV pour les deux, je vais postuler à des offres pour les deux, et je vais voir lequel me répond en premier. Et ça a été le jeu vidéo, et du coup, je suis dans le jeu vidéo.
Okay.
Ça aurait été l'autre, je serais potentiellement pas là.
Bon, les deux t'intéressent en tout cas, quoi.
Alors maintenant que je connais plus les métiers, je pense que le métier que je fais actuellement m'intéresse beaucoup plus que celui que j'aurais pu faire. Ça me correspond beaucoup plus le FX temps réel que le précal.
Ok, intéressant.
Alors du coup, parlez-nous plutôt de votre cœur de métier. Dans un workflow de jeux vidéo, à quel moment vous intervenez? Est-ce que vous intervenez au début, au milieu, à la fin? Ou partout? Comme vous voulez.
Je dirais plus qu'on intervient vers la fin, techniquement. On va dire sur l'organisation que je connais, on est en avant-dernier, après il y a le son, et techniquement d'accord. Après c'est le il y a tout qui est à peu près fait. On peut intervenir beaucoup plus tôt, nous c'est ce qu'on fait la plupart du temps, mais du coup on patauge souvent parce qu'on n'a pas forcément la direction qu'on veut, on n'a pas forcément les instructions qu'on a besoin et le setup pour intégrer nos VFX dans le jeu. Mais ouais, du coup, ça dépend beaucoup.
Ouais, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, à part les intentions globales ou une première passe, pardon, c'est qu'on est très dépendant de l'animation, on est très dépendant de beaucoup de choses de ce style-là pour savoir quoi montrer, même des angles de caméra, parce que notre métier, on reviendra sûrement dessus, mais on triche tout le temps, c'est le concept. Du coup, on est tellement dépendant de plein d'autres métiers que si on passe trop tôt, il y a forcément soit une partie de notre travail qui va servir à rien, soit une partie de notre travail qu'on ne peut pas faire correctement. Donc, on est obligé de passer après les animations et tout, ce qui fait que on ne peut pas être en début de chaîne, en fait. On se retrouve à la fin parce qu'on a besoin des étapes avant. Et c'est comme pour le son, en réalité.
Ouais.
Parce que c'est exactement les mêmes problématiques.
Et pourtant, tu vois, en animation, le son, il arrive vachement tôt parce qu'on a les voix, on a souvent des musiques témoins, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a ce travail aussi en FX de... malgré le fait que ce soit pas en précalculé, il y a un peu de recherche en amont. T'attends peut-être pas non plus d'avoir les anime dev de ton personnage pour faire les whoosh, les slash, les paf, comme le disait le doc au début. Donc, est-ce qu'il y a aussi cette partie quand même de travail de fond avant que ce soit vraiment intégré dans le jeu?
Oui, on n'attend pas que tout soit polish dans toutes les animations, etc. non plus pour partir dessus. Une fois qu'on a les intentions, on peut commencer à travailler. Et c'est un travail itératif en fait, hein, comme tous les autres métiers un peu dans le milieu. Il y a une première passe qui nous permet d'avoir une intention, on fait notre intention dessus et on itère jusqu'à arriver au résultat.
On a très souvent des demandes très tôt où on doit juste faire un rond rouge pour signaler une boule de feu par exemple. Juste on va passer ça au game designer ou aux gens qui font le jeu et il va faire sa tambouille avec et après on repasse beaucoup plus tard dessus pour faire l'art, le joli, le très beau. Quoi.
Ouais, quand tu dis boule rouge, c'est littéralement
c'est
une boule rouge.
Une boule rouge.
Oui.
Ou un carré rouge.
Attention, il y a une boule de feu qui arrive. Enfin, attention, c'est dangereux. Esquive ça.
Parce que ça répond à une fonction d'abord. C'est ce que j'ai compris.
Moi, on fait la fonction en premier, et après on ajoute le joli qui va avec.
Ok. Donc c'est un proxy, placeholder
placeholder, ouais.
C'est quoi tiens, je vous pose la question. Quelle est la différence entre placeholder et proxy?
Moi, j'ai jamais vu dans mon métier le terme proxy utilisé.
Je ne sais pas ce que c'est non plus.
D'accord. Okay. En fait, bon, c'est que dans l'animation.
techniquement, les proxys, c'est aussi une autre technologie intérieure où ça permet de rendre via le GPU plusieurs instances de l'objet sans qu'il soit vraiment mis dans la scène.
Pas ça. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je
Donc,
connais.
Potentiellement,
proxy, c'est un truc pour remplacer pour remplacer quelque chose qui n'est pas là quoi.
Oui, je vois.
Je sais qu'en layout par exemple, je vais l'utiliser parce que on a tel ou tel. Alors, on peut faire des proxys de FX justement parce qu'il y a un effet qui va se passer, un truc qui va exploser, qui va voilà. Bon, on va faire une boule rouge. C'est pour ça que je pense à ça, qui va grossir et qui va dire là il va y avoir le FX qui va être remplacé par la suite.
Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, si le terme de proxy a une autre signification aussi un peu dans le milieu, potentiellement c'est le terme placeholder qu'utiliser pour pas qu'il y ait une confusion entre les deux, quoi.
D'accord.
Moi j'ai l'impression que la diff, elle a été, ça rejoint un peu ce que tu disais Noé, c'est que proxy est vachement lié à l'objet 3D qui n'existe pas encore, alors que placeholder est beaucoup plus attribué à de la texture ou à du 2D, ou d'ailleurs c'est écrit placeholder pour te dire qu'il va y avoir quelque chose d'écrit là.
Il est censé y
avoir. Et on est plus dans la 2D pour le placeholder et plus dans la 3D pour le proxy, qui est un peu plus technique déjà, qui rentre un peu plus dans l'art. Moi, je sais qu'à l'époque, par exemple, à MacGuff, souvent les deux étaient utilisés. Et effectivement, le proxy avait plus le sens que Noé disait de un truc qui va être dupliqué en mesh quelque part et qu'on met en low def, en gros, en très low,
basse définition
avant d'amener la haute définition dedans. Voilà.
Donc,
le placeholder était un gros truc écrit dessus pour te dire. Ça va avoir une autre gueule à la fin. Voilà, ça c'est rigolo.
Bon, en tout cas, avec un mèche moche, c'est pareil. Hein.
Ah oui, ça
va avoir une autre gueule à la fin.
Oh, d'accord. Dire... Bon, non, mais okay. C'est pour ça, c'est peut-être de l'anglicisme aussi qui s'est mélangé avec le temps, je pense, à mon avis.
Oui, probablement.
Ça marche.
Ouais. Et pour revenir sur ce que disait Batou,
Batou.
Baptiste.
Pardon. Excusez-moi, c'est l'habitude.
Donc le Joker et Batman, c'est ça.
Exactement. C'est que, vu qu'on a quand même l'aspect, contrairement à ce qui est plus précal, de répondre à des besoins gameplay, c'est qu'on nous demande aussi de faire des trucs moches au début qui fonctionnent. Parce que si on arrive à comprendre ce qui se passe et qu'on arrive à lire l'action et lire qu'il faut esquiver quelque chose avec une boule rouge, avec une boule de feu, ça sera forcément clair. C'est qu'il y a vraiment le côté...
C'est un peu comme toi en layout, si jamais on te disait tu fais pas ta cam tant que l'anime elle est pas finie. Bah non, tu vas mettre des persos en posté, tu vas pouvoir faire tes cadrages en amont pour déjà pré-mâcher le travail en fait.
Et en pose normale.
Oui, bref. aussi. Oh là.
Non, on va pas commencer à se battre pour cette première saison. Enfin, pour cette nouvelle saison, pardon. Comment justement vous travaillez avec tous les départements avec lesquels vous devez travailler? Vous devez bosser, si j'ai bien compris, avec donc l'anime, avec les décors, donc avec des textures, avec aussi le layout, les caméras, enfin je sais pas, au niveau jeu vidéo, comment est-ce que la caméra est gérée, donc comment on va voir vos effets,
dans avec le gameplay, light, dans les cinématiques.
C'est ça. Avec les lumières aussi, parce que vos FX vont changer en fonction des lumières, ou vont avoir une influence, ou vont émettre de la lumière. Wow, comment vous faites, les gars? Merde.
Comment on fait dans le sens, comment on produit nos assets, ou comment on communique avec les équipes?
Les deux, mon capitaine.
Vas-y.
Oh, le passage de balle. C'est honteux.
Le home run de Noé, là.
Alors, il y a deux super questions, c'est pour toi.
Parce que pour le coup, c'est dur. C'est vraiment dur. On fait vraiment, j'ai envie de dire, comme on peut. Hein, on contacte les personnes avec qui on a besoin sur le moment. On oublie souvent de contacter certaines personnes, ce qui donne des problèmes par la suite. Mais oui, ça va être... la demande va venir de quelqu'un d'un VFX. Nous, en fonction du VFX, on va contacter le game designer qui est accordé au personnage sur lequel on fait le VFX. On va voir avec la personne qui s'occupe de l'environnement. Comment on peut faire ça, comment on s'arrange pour que ça rentre bien dans l'environnement, etc. Faut que le lighter soit passé dessus aussi. Faut prévenir le son qu'on fera ça et que...
Et il va y avoir un sprouitch, un glouf.
C'est vraiment...
Normalement, t'as quand même une personne à la production, enfin, un APM en animation, mais un cordeau, comme on en a parlé avec Marie Arteta, un coordinateur qui va essayer aussi de faire le pont entre les départements, de traquer tout ça.
Normalement.
Mais.
Pas toujours.
Ouais, parce que.
La plupart du temps, c'est le cas.
En jeu vidéo, c'est quand même vachement plus le bordel qu'en animation, quoi.
Oui.
Tu vois, en animation, il y a vraiment des séquences qui arrivent les unes derrière les autres. Là, j'ai l'impression quand même que la moindre idée qui est créée, parce que le problème, c'est que n'importe quelle animation ou attaque d'un personnage doit être supportée de près ou de loin par au moins un king ou un. Tu vois, un petit FX quelque part, ou un gros FX de flamme enragée quand c'est un énorme sort. Donc forcément, ça peut vite vous tomber sur le coin de la tête. Ah bah tiens, en fait, il y a ça. Allez, vas-y.
Il y a tout le temps des changements. De toute façon, c'est... Bon, on peut rien y faire, malheureusement, c'est normal. Et c'est comme ça que ça rend le jeu meilleur.
Mm-hmm.
Mais c'est... Du jour au lendemain, tout peut changer, quoi.
Idéalement, il y a des workflows, il y a des systèmes de production ou des pipelines où ça commence par le design, ça passe par cette étape-là avant d'arriver jusqu'à nous, et ça, il y a des boucles, etc. Dans les faits, tout le monde sait quand on travaille sur une production que c'est jamais aussi clean que ça devrait l'être dans un workflow, dans un pipeline. Donc théoriquement, on a quand même une sorte d'ordre de fonctionnement qui fonctionne, mais au final, avec les retours, les feedbacks qu'on a d'une équipe ou d'une autre, les communications besoin.
Et le directeur artistique aussi.
Et le directeur artistique, oui. Absolument. Mais le directeur artistique, il intervient dès le début, normalement.
Oui, non, mais dans la prod, mais avec vous, il intervient aussi.
Oui,
parce
bien sûr.
C'est quand même essentiel.
Il faut qu'il vérifie tout notre travail pour dire ça correspond bien, ça va pas du tout. On fait des retours, on refait des changements, on fait des allers-retours, et jusqu'à ce qu'on ait ce qui correspond parfaitement à sa vision.
On parlait tout à l'heure des game designers, donc les gens qui créent les personnages, les situations, les niveaux, etc., qui vont vous demander certaines choses. Est-ce que vous avez des fois des demandes aussi envers les autres départements, en anticipation d'eux? Est-ce qu'il y a un exemple comme ça qui vous est en tête éventuellement?
On leur demande de faire attention à certains trucs. On sait que certains VFX, par exemple, je sais que notre collègue Lou déteste tout ce qui est fait de lave, parce qu'elle a beaucoup bossé dessus et elle sait que c'est très difficile. Du coup, on leur dit attention, faites pas trop d'effets comme ça si possible, parce que nous, on va galérer à le faire et ça va prendre du temps, etc.
Selon l'équipe, selon le moteur, selon les jeux, évidemment, j'imagine.
Évidemment.
Mais il y a des trucs qui sont très coûteux, en fait. Vous savez tout de suite que, oula, ça...
Pareil pour les performances, on leur dit, attention, si vous faites cet effet qui va prendre tout l'écran, qui va faire des flashs noir-blanc, c'est pas possible.
On va tuer des épileptiques.
Ah oui, alors ça, par exemple, c'est un vrai sujet. Hein,
ah oui.
En animation, on nous en parle, mais en vrai, pas tant que ça, j'ai l'impression.
Ah, si, sur la fin.
Ouais, c'est parce que j'ai pas souvent été en fin de chaîne, alors.
Ouais.
Parce que là, vraiment, en jeu vidéo, en plus, t'as 60 images par seconde, 120 pour quand tu pousses vraiment.
En animation, il y a des tests de toute façon qui sont faits en labo.
Pareil, hein.
Oui,
c'est
pareil.
Là, vous avez aussi un labo aussi au niveau du jeu vidéo.
Ils ont
bien
des
évidemment.
Machines et ils font leurs tests. Et on a des retours comme quoi ça passe pas et on doit se débrouiller pour que ça passe.
Ouais, c'est un peu à la débrouille. C'est en mode,
débrouillez-vous.
Jusqu'à ce que ça passe.
On s'y prend aussi à la fin.
Ça, c'est obligé d'être à la fin parce qu'on peut pas trop le faire, enfin, on peut y réfléchir en amont, mais dans tous les cas, c'est possible qu'à la fin, ça puisse être une particule malencontreuse qui passe devant, qui fait un flash blanc et qui. Faut vraiment vérifier à la fin de chaîne.
Les règles sont assez étonnantes d'ailleurs.
Ah oui,
moi je pensais que c'était vraiment un flash, on le voit tous comme étant un flash d'une seconde et c'est mort. Mais en fait, c'est bien plus subtil que ça. C'est un certain nombre de frames, de blancs.
T'as des variations de luminosité qui ne doivent pas dépasser un certain pourcentage pendant un certain temps.
C'est fou.
Mais il y a plusieurs types d'épilepsie. Il y a les épilepsies au flash blanc, il y a les épilepsies au rouge, il y a les épilepsies au pattern.
Au pattern?
Ouais, s'il y a des motifs qui se répètent trop. Là, par exemple, dans Prince of Persia, il y a un moment, il y avait, qui a été corrigé du coup depuis, il y avait une frise en bas d'un escalier particulier qui fait que si tu courais en descendant l'escalier, ça te déclenchait une épilepsie.
Ah merde.
Voilà. Donc, c'était pas nous, incroyable. C'était vraiment du décor, mais...
Okay,
d'accord. Ouais. Ah ouais. Ok.
Heureusement qu'ils ont enlevé la machine pour tester.
Exactement, ils ont enlevé la frise.
Oui, vaut mieux, oui.
Et...
Vous travaillez avec quels outils? Ou quel outil? Quels outils, donc, c'est avec un Z?
Avec un Z, ouais.
Alors
Beaucoup.
Ah, si vous pouvez en parler, s'il n'y a pas de secret de fabrication...
Je ne pense pas qu'il y ait de secret de fabrication.
Pas sur notre projet, je pense.
Non, globalement, notre métier est un métier qui utilise beaucoup d'aspects de la 3D en général. C'est-à-dire, on fait de la modélisation, parce que des fois, on a besoin de modéliser des trucs pour nous. On texture aussi. La majorité de nos particules, ça reste des billboards, mais il y en a plein où c'est texturé. Et puis, même les billboards, il faut qu'on les texture nous-mêmes.
Ça, c'est vous qui le faites. Vous n'avez pas une équipe qui fait du modèle et de la texturing.
En tout cas, sur ce projet, nous, on fait tout.
Ouais.
On fait de l'animation, on peut faire de l'animation, oui. On fait du coup modélisation, texture et puis un peu de lumière aussi. On peut faire un peu de tout. Donc globalement, tous les outils qui peuvent permettre de faire ce genre de choses, on peut les utiliser.
Donc Substance,
Photoshop, outils Maya, 3DS.
Ah oui,
carrément.
Tout ce qu'on connaît.
Tout ce qu'on connaît, voilà. Et en fonction de chaque personne, on a chacun nos affinités avec certains logiciels, donc on les utilise plus.
Ou dis donc, tu peux pas me faire cette modée.
Ça arrive.
Moi, je ferai le.
C'est exactement
ça. Je te ferai ta texture.
ouais, c'est méga pratique. Ça arrivait récemment que je demande à Noé de me faire de me servir d'outil que je sais pas utiliser pour faire un mesh spécifique.
L'important, c'est qu'à la sortie, vous ayez quelque chose qui soit exploitable par le moteur du jeu vidéo, c'est ça. Peu importe ce que vous utilisez avant.
Oui.
Alors, dans notre cas Nous, à Ubisoft, oui. Après, dans tous les autres studios, ça dépend, parce qu'il y a toujours des histoires de licence. Il y en a certains studios qui ne travaillent qu'avec Max, et dans ces cas-là, tu dois toujours faire tes assets dans Max, et peu importe. Ouais. Mais quand on a le champ un peu plus libre, comme on peut l'avoir ici, et ben, dans ces cas-là, on a plus le loisir de se spécialiser dans ce qui nous...
Oui, il y a pas mieux, quoi. Techniquement, il y a pas, parce qu'on est dans un moteur de jeu vidéo, alors il faut utiliser plutôt Max, plutôt Maya, plutôt machin. Ça, c'est...
Après, c'est toujours mieux de se, d'être avec les, enfin, si la production utilise un logiciel spécifique, c'est mieux qu'on utilise ce logiciel aussi pour qu'il y ait un certain, je perds mes mots.
Une cohérence technique, en fait.
Ouais, c'est ça. Si quelqu'un veut récupérer notre fichier de mesh, par exemple, bah, c'est mieux si on a le logiciel que tout le monde utilise, quoi.
Clairement.
Ok. Mais du coup, alors, vous utilisez, parce que tu as parlé de particules, tu as parlé de, donc des particules, est-ce que tu peux
développer
un petit peu, ça sert à quoi, comment tu l'utilises, et après...
On revient sur la base du métier, du coup.
Ouais.
Ok. Allez. Alors, notre métier, tu m'interromps quand tu veux, Baptiste.
Jamais.
Notre métier à la base, c'est de faire des effets visuels, et les effets sont majoritairement faits avec un système de particules. Le système de particules dépend en fonction des logiciels. Il y a le sur Unreal par exemple, ça va être Niagara, ça va être Cascade. Sur Unity, ça va être Shuriken, et sinon c'est le Particle Graph. Moi, j'ai déjà bossé avec d'autres logiciels qui sont des middleware qui sont faits exprès juste pour faire la session de gestion de particules, comme par exemple Popcorn.
Ok.
Voilà, et ça dépend, mais ils ont tous plus ou moins la même logique qui est de faire apparaître des particules et de gérer leur comportement.
Alors, quand on parle de particules, c'est-à-dire, en gros, c'est des points.
C'est un point. C'est littéralement juste un point. Et sur le point, on met ce qu'on veut, globalement.
D'accord.
Dans la majeure partie des cas, c'est juste un plan avec une image dessus.
Okay. 2D.
Donc,
qui est face à la caméra.
Qui est face à la caméra, un billboard, c'est comme ça que ça s'appelle. Et le concept, c'est peu importe comment on la regarde, et ben, ça fait la même image de face. Dans 90% des jeux, c'est ça qui est utilisé.
Elle s'orientera toujours en face de la caméra et elle sera toujours...
C'est ça.
Parce que c'est moins cher aussi.
Parce que c'est moins cher.
C'est moins coûteux, je veux dire, en termes de moteur, pas que, ça demande de l'argent.
Oui, bien sûr.
C'est plus léger dans un moteur,
Oui, et puis ça fait la blague 90% du temps, en fait. À part dans les jeux VR, on reviendra dessus juste après, je pense, mais quand on voit un rond, si par exemple je prends une particule, je dessine juste un rond dessus, ben, en fait, si tu regardes une sphère de n'importe quel angle, tu vois toujours qu'un seul rond.
Mmh.
Donc, en réalité, juste avoir un rond qui est aligné vers toi, ça suffit pour faire croire que tu fais une sphère.
Avoir une texture qui fait un petit peu de comment dire, de un peu shading pour faire genre que c'est rond, parce que c'est plus clair un peu sur le côté et plus foncé de l'autre côté, et du coup, ça fait les ombres. Et
du coup, on a l'impression d'avoir du volume.
Voilà.
Vu que dans tous les cas, sauf en VR où c'est rendu sur plusieurs écrans, et là, ça devient tout de suite un enfer. C'est vu que d'un seul angle de caméra, on n'a pas la notion de profondeur. Donc en fait, un nuage de fumée, c'est juste une particule avec une fumée dessinée dessus, et ça peut très bien faire la blague. Si le personnage commence pas à courir et à tourner autour, on voit que dans ces cas-là, il se réorientera par rapport à toi. Là, ça marche moins bien, mais dans la majeure partie des cas, ça marche.
C'est ce qu'on appelle des sprites.
Absolument.
Ah bah oui.
Eh,
dis donc.
Dis, t'as vu ?
On voit le vieux briscard.
J'ai bossé.
Mais du coup, il y a le billboard, mais le concept de la particule étant juste un point, on peut remplacer le billboard par un mesh si on en a besoin, pour peu importe les raisons. On peut le remplacer en fonction des moteurs par des lumières.
Des particules de lumière.
On peut faire des particules de lumière, comme ça on a des lumières un peu dynamiques qui virevoltent autour de toi, etc.
Ah, comme des lucioles.
Exactement. Mais si on met juste la lumière, il n'y aura rien. Donc il faut mettre la lumière et en plus un petit sprite de lucioles qui virevolte. Et on peut aussi remplacer, il y a quelque chose qu'on appelle les ribbons, qui sont des rubans, et globalement ça fait que quand la particule se déplace, très grossièrement, et ben ça fait apparaître d'autres petites particules à la position qu'elle avait avant. Et ce qui fait une traînée derrière les objets.
Comme une étoile filante.
Il a fait clocher.
Exactement. Ce qui peut causer plein de soucis, parce que si elle aussi, elle orientait la caméra et qu'elles ne sont pas toutes orientées pareil parce qu'elles tournent, ça peut causer des problèmes. Mais globalement, les effets de slash, souvent, les effets de traînée derrière quoi que ce soit,
c'est souvent de slash.
Coup d'épée.
Ah, oui, d'accord.
Une traînée de slash dans l'air. Voilà. Donc le métier de base, c'est on contrôle où apparaissent les petits points, dans quelle direction ils vont. Et qu'est-ce qui se passe quand ils meurent, et l'évolution que ça peut avoir de leur couleur, de leur taille, de leur forme. Et globalement, ça, c'est le concept de base du métier. Et après, on habille ces petits points, et ça fait des trucs jolis.
Parce que moi, je m'étais noté particules, fluides, dynamiques, image. Mais en fait, tout ça, c'est tout ça est orienté autour de la particule.
Ouais. Le fluide.
Parlons-en.
Parlez du fluide. Oui.
Sauf si vous voulez parler de.
Genre, moi, je m'y connais. Absolument.
Okay, je vais venir sur
si
le fluide.
Vous voulez parler d'autres choses techniques qui peuvent amener au fluide ou qui, je sais pas.
Bah.
C'est votre boulot, merde.
Le fluide, on peut en parler dans ces cas-là, mais ça va revenir à la différence de base entre les FX précalculés, les FX et les FX temps réel, qui est que globalement, le calcul de fluide, actuellement, même dans le précalculé, je vais peut-être me faire corriger par des gens qui bossent dans le métier et qui vont me dire que je dis n'importe quoi, mais de manière générale, c'est plein de petites particules qu'on extrapole en leur faisant des sphères autour et on voit comment elles s'interfèrent les unes avec les autres. Mais globalement, c'est une piscine à boules sur laquelle on a mis une jolie texture, dans le précalculé.
Qu'on va relier, en fait, exactement. Pour faire une seule,
et
une seule surface.
Et qui a toutes des statistiques de viscosité, qui font que si on bouge une boule, et ben ça va attirer les boules qui sont avec, etc. Et les boules sont microscopiques et très nombreuses, et ce qui fait qu'on a cette impression que c'est de l'eau. C'est quasiment comme la physique en réalité, où c'est des petites molécules qui sont...
Des
petits atomes.
Mais c'est incroyable.
Voilà.
Non, mais c'est vrai, en plus. Pardon.
Mais c'est bien en plus. Et globalement, ça, actuellement, vu les machines actuelles, c'est compliqué, voire, entre guillemets, impossible de le faire dans un moteur temps réel, parce que c'est trop coûteux. Ça coûte beaucoup de puissance de calcul, de calculer toutes les collisions des petites sphères entre les unes, avec les objets, etc.
Et ça, tu sens
Et c'est pour ça qu'actuellement, dans les jeux vidéo, à part à de très rares occasions, mais vraiment très rares, où c'est plus de la démo technique, on n'a pas de fluide temps réel.
C'est que du bluff à chaque
c'est
fois
que du ouais. bluff.
Alors comment on fait de la flotte alors?
Eh ben un plan qui se déforme avec un joli shader dessus et ça fait de la flotte. Des éclaboussures, souvent, c'est vraiment soit des sprites qui prédessinés en forme d'éclaboussures qui apparaissent au bon moment, soit des mèches animées qu'on fait apparaître aussi au bon endroit. Il y a des démos techniques, il y en a plein qui existent sur Internet où on arrive à faire ce genre de choses, mais comme beaucoup de démos techniques, c'est pas vraiment exploitable dans un jeu derrière parce que bah c'est bien beau de pouvoir faire tourner de l'eau à 60 FPS, mais il faut aussi se dire que normalement on est censé faire tourner tout le reste du jeu en même temps. Donc tout ne rentre
pas. Il n'y a pas que de la flotte.
Voilà, il n'y a pas que de la flotte. À part un jeu qui serait, je sais pas, je prends un exemple genre Subnautica où il y a énormément de choses qui sont basées sur l'eau, là ça a plus d'intérêt.
Un simulateur de pluie, voilà.
Et encore la pluie, c'est pas géré comme du fluide.
Ah bon ?
Non.
C'est les pas.
C'est plein de petites particules qu'on fait tomber, qu'on fait défiler à l'écran généralement.
Et avec de la gravité qui fait que ça attire les particules vers le bas.
Exactement.
Ou vers le haut si on a la tête en bas.
Mais t'as même pas forcément besoin de gravité, j'imagine. Si tu les
animes
comme tu veux.
Vélocité vers le bas et ça fait très bien.
Ouais, si tu les bouges comme t'as envie que ça bouge.
Oui.
D'ailleurs, en parlant d'animation, je vous la lis comme je l'ai écrite, la mienne question, parce qu'elle est rigolo. En fait, de l'animation, finalement, et même de l'anime traditionnel, c'est insane, bro!
Il l'a seulement écrit comme ça.
Attends, on a parlé un petit peu tout à l'heure, Noé, c'est, faites un peu d'anime,
c'est,
en fait, finalement.
C'est un composant hyper important du métier, je trouve.
Ouais.
Enfin, on peut avoir des VFX extrêmement moches avec des textures de très basse qualité. Si notre timing est bon, enfin, notre timing et le mouvement est bon, ça pourrait être joli. Enfin, ça pourrait très bien faire le taf, je pense. Mm-hmm.
Je sais que j'ai parlé, tu as nommé une de tes collègues tout à l'heure, on a beaucoup parlé ensemble d'overlap, de rythme, de... Je perds mes termes d'animation.
Overlap.
Ouais, tous des termes d'animation comme ça, en fait. Je vais pas aller dans les détails, ça va être trop long. Là. On fera une émission spéciale sur les termes d'animation, si tu veux, mais... Mais non, mais oui, en gros, c'est faire des retards. Principalement, justement, on parlait de fluide, etc. Quand tu fais de l'animation d'effets, tu as souvent ces notions de retard, de... Je sais pas comment expliquer vraiment dans le détail, mais...
Dans les principes d'animation, quoi.
Oui, voilà, tout simplement.
Ah bah, c'est les 12 principes. Non, si,
12, oui,
12
oui.
principes d'animation. On les utilise énormément en VFX, pour le coup, ouais.
Donc, c'est une bonne notion à avoir.
Anticipation, réaction, etc. Pour un...
okay. Même si ce n'est pas exploité exactement de la même manière, en tout cas, toute la logique derrière est exactement la même. Ouais.
Parce que vous animez encore beaucoup à la main.
En dessinant frame par frame.
Ouais.
Ouais. Non. Enfin,
ah, oui,
on l'a fait un peu sur Prince of Persia. Je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire. Mais
bah oui.
On l'a fait un peu sur Prince of Persia.
Bien sûr.
Moi, je sais que je le fais pas mal sur mes VFX perso parce que j'adore l'animation 2D. Et oui, pour le coup, là, faut savoir animer. C'est vraiment de l'animation pure, quoi.
Est-ce que tu avais le choix d'utiliser soit un système, on va dire, pas procédural, c'est pas du tout le terme, mais un truc généré par Unity,
ouais,
ou le faire toi-même ou...
Généré par Unity.
Ouais, c'est... tu as la preuve que c'est pas clair.
Parce que dans pas mal de jeux réalistes, on fait des simulations d'explosion. Et après, on transforme cette simulation d'explosion en sprite sheet.
Enfin, bon, du temps,
ensuite, d'image. Bah, en fait, c'est d'animation frame par frame de l'explosion, quoi.
Donc, alors, attends, vous simulez
une séquence d'image.
Vous simulez quelque chose, par exemple, admettons, dans Houdini.
Ouais.
Prenons le ténor du barreau. Donc là, du coup, de la, du fluide, de la dynamique, du machin,
ouais,
donc un truc.
Une vraie explosion
en 3D. Pas du tout en réel.
Pas du tout.
Hyper calculé, machin, super joli. Et ensuite, vous le prenez sur un certain angle de vue.
Ouais.
Et vous en faites un truc 2D, quoi.
Un rendu. Exactement, ouais. On rend frame par frame.
Ok.
Ensuite, on prend, chiffre moyen 64 frames, souvent utilisé. Parce que ça fait, ensuite, on les met dans une seule image qui fait du 8 par 8.
Ouais,
on colle les 64 frames les unes par les autres, on les met dans le shader ou dans le, enfin dans le moteur du jeu, et puis on dit bah tu m'affiches au fur et à mesure de la vie des parties, de la vie de la particule, le premier carré, le deuxième carré, le troisième carré, etc.
Mais non.
Et du coup, au fur et à mesure de la vie de la particule, et ben ça va afficher les 64 frames et ça va faire une explosion qui a l'air jolie et qui a l'air
à moindre coût du coup.
À moindre coût, ouais. Parce que c'est toujours une particule qui juste lie un bout d'image différent.
Ouais, c'est trop bien.
Mais alors, attends. 64 ouais. 64 images.
Ouais.
Si on est dans un jeu en 60 FPS,
ouais.
Arrondissons, ça veut dire que donc FPS frame par seconde, ça veut dire que vos FX ils durent pas plus d'une seconde.
Alors
oh, la plupart du temps, ouais, non.
Si on veut, on peut. En fait, vu que c'est par rapport à la vie de la particule, on peut faire que la particule dure beaucoup plus longtemps et du coup, les images resteront plus longtemps parce que on a rendu 64 images. Mais après, on n'est pas obligé de l'afficher à la vitesse de 64 images en une frame égale une image. On peut décider qu'une frame reste une seconde. Voilà. Mais c'est là qu'interviennent les T-cartes.
Ah.
Aha. Ou un fixe artiste qui aime bien faire du shader, par exemple. Mais dans les shaders, qui sont du coup les matériaux qu'on utilise pour rendre n'importe quoi à l'écran, eh ben, il y a plein de filouteries.
Et c'est
filouteries.
Du filouterie, d'accord.
Car c'est des filous.
C'est un terme technique.
pas sûr. Et qui permettent d'interpoler entre les deux images par diverses techniques. Soit simplement, on en fait apparaître une progressivement pendant qu'on fait disparaître l'autre. Soit, en plus de ça, on peut rendre une passe. Alors, ça va devenir un peu plus technique de motion vector, qui fait que chaque pixel n'est pas simplement disparaît progressivement en opacité pour faire apparaître l'autre de l'autre image, mais est déplacé en plus suivant une autre image que tu as rendue. Pour donner un mouvement à l'intérieur, ce qui permet d'avoir
un morphing, quoi, presque.
Exactement.
Ouais. D'accord.
Mais ce qui est très impressionnant, c'est que avec juste cette technique-là, qui est vraiment pas très compliquée, on peut avoir une image de 64 frames et faire que l'explosion dure 10 secondes et on ne voit pas les images les unes après les autres. On a vraiment l'impression que c'est une explosion qui déroule au ralenti. Et ça marche très très bien.
Et ça, il faut le développer pour chaque jeu ?
Alors, tu le développes souvent pour chaque moteur de jeu.
Ouais. Oui, c'est pour ça que souvent, c'est intéressant comme question parce que je pense que notamment en FX, ça se voit énormément. Ça, je pense que ça doit se voir aussi en lumière et en modeling, je dirais. On parle souvent de ça. C'est un jeu Unreal. Tu vois, rien qu'à l'image, on se rend compte. Ah oui, c'est un jeu machin. Parce qu'en fait, la tech, ou un jeu Unity, ouais, effectivement. Et que, parce qu'en fait, la tech qui est développée pour du coup générer des images quelque part, elle se voit en fait, elle se sent. Et de se dire que ton FX, il va tout le temps être générer de la même manière, quelque part. Après, c'est à toi de te démerder pour machin.
C'est ça. C'est que, par défaut, tu auras un rendu qui ressemble plus au rendu Unreal.
Un comportement, voilà, qui est toujours le même. Ouais.
Mais pas exactement. En réalité, c'est si tu te contentes de faire les trucs par défaut. Si tu veux avoir un rendu Unreal sur Unity, tu vas galérer, mais tu peux le faire.
Oui, c'est vraiment les settings de base du moteur qui sont comme ça, mais tu peux très bien tout modifier pour avoir le rendu que tu veux, quoi.
Et chaque moteur a ses points forts et ses points faibles pour les différentes choses. Quoi.
Unity, par exemple, ça a été quoi, votre point fort, votre point faible sur les FX ?
Unity, c'est très simple d'utilisation, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Le moteur de particules Shuriken, en fait, c'est hyper simple d'utilisation. Tu peux pas faire énormément de choses avec. Et toutes les choses très basiques, enfin, toutes les choses qu'on utilise, en fait, tu peux les faire. C'est si vraiment tu es dans des comportements vraiment spécifiques que c'est compliqué.
Pourquoi c'est simple et pourquoi ça devient compliqué ? En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui rend l'outil simple et qu'est-ce qui fait que du coup après t'es coincé. C'est parce qu'il faut rentrer dans le code vraiment si tu veux faire des trucs compliqués.
Après, ouais, faut vraiment faire des outils personnels, j'ai envie de dire, pour Unity.
Pour présenter comment est fait Shuriken, parce que maintenant la majorité partie des gens qui utilisent Unity utilisent le Particle Graph, qui est plus versatile. Shuriken de base. il y a un module pour chaque comportement. Donc, il y a un module qui est genre évolution de la couleur au fur et à mesure de la vie de la particule, évolution de la taille au fur et à mesure de la vie de la particule, enfin, tout ce genre de choses. Et si on veut rajouter le fait que ça tourne en vortex sur elle-même, et ben, il y a juste un module à cocher, on modifie les paramètres du vortex, mais ça fait ça. Donc, tous les comportements de base, ceux qu'on va avoir besoin dans 95% du temps, sont déjà faits. On a juste à cocher, modifier les paramètres et ça fonctionnera. Donc, de ce point-là, il est ultra accessible et ultra simple.
Par contre, c'est des presets qu'on va retoucher un petit peu après, quoi.
Bah,
quasiment.
C'est même pas des presets, c'est vraiment c'est des boîtes et que tu les coches. Genre, okay. Je veux ça. Je veux qu'il y soit attiré par la gravité. Je veux qu'il ait une vélocité de base. Et je veux que quand ça apparaisse, il apparaisse à partir d'une sphère. Tu coches trois cases et puis t'as déjà okay. Ça.
Et ça marche bien?
Ça marche très bien.
Et il marche très bien.
Il est très stable sur ça, pour le coup.
Mais par contre, si tu veux avoir des particules qui sont reliées, je sais pas, à du gameplay, ça devient tout de suite pas prévu dans les outils de base. Et dans ces cas-là, c'est à toi de faire des choses de ton côté ou de galérer mais, et de trouver des options différentes. Mais je sais pas, si tu veux qu'une particule qui soit sur la tête de ton personnage principal elle change de couleur en fonction de la vie de ton personnage principal, tu peux pas dire, bah, tu prends la variable vie, tu la mets dans la couleur, et pour 0, ça vaut ça, pour 200, tu vois ça.
Tu vas être obligé de passer dans du code, quoi.
Tu es obligé de passer par du code qui envoie des données, tu fais des custom data qui permettent de transférer des choses. Et là, tu peux pas le faire facilement. Mais pour tout ce que tu as besoin de base pour faire des fixes dans ton coin, ça, t'as besoin de pas de développement. Mais si tu veux aller dans des trucs un peu plus poussés, t'es un peu bloqué.
Donc ça, c'est Unity.
Ouais.
Unreal, du coup, vous avez tâté un peu ou...
Oui.
Ouais. Ouais. Bah,
c'est différent.
C'est différent, c'est pas pareil.
C'est-à-dire qu'ils ont leur dernier outil, Niagara, qui est celui le plus avancé, qui est sorti avec le Unity 5, je crois.
Oui.
Où pour le coup, t'es vraiment... Je trouve ça plus difficile de se mettre dedans, et plus difficile, enfin, moins rapide de faire des trucs simples. Mais par contre, t'as accès à vraiment à tout ce que tu veux. Tu peux très très facilement coder tes propres modules, bah, par exemple, changer la couleur de la particule par rapport à son lifetime. Tu peux le faire, t'as le module spécial, mais on va dire si tu veux faire un module, je ne saurais pas dire qui change sa couleur par rapport à la vie du personnage, c'est très facile d'accès, tu peux faire le code et l'implémenter facilement. Alors c'est que dur, dans Unity, c'est vraiment dur. Enfin,
mais alors, c'est très abstrait pour moi, comme j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui rend la chose difficile et pas difficile.
Bah, ça va être les étapes à faire et les connaissances à avoir, je dirais. C'est vrai que c'est.
Unity serait, alors si j'essaye de comprendre et de synthétiser, vous dites que Unity est plus hermétique, plus facile d'accès, mais un peu plus hermétique entre les FX avec les personnages, les données qui émanent d'un perso, de quoi que ce soit, alors que Unreal est plus difficile de prime abord, mais très poreux.
Ouais,
et du coup, on tire des fils de partout et c'est ça ou...
c'est ça. Mais c'est un peu les conséquences aussi. Si tu veux que chaque étape, tu puisses la customiser, la personnaliser et tout, eh ben, ça va être forcément plus... Enfin, forcément, pas forcément, parce qu'il y a sûrement des moyens de faire de l'UX qui soit très clean là-dessus. Mais ça, il y a plus d'options partout et tout est plus avancé. Donc, vu que tu peux tout personnaliser... C'est moins facile de comprendre qu'est-ce qui fait quoi exactement au début.
Mmh. D'accord. Il y a plus d'options très précises, et du coup, ça me prend un peu de temps à prendre en main. Mais en termes de code, parce qu'en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer, de comprendre, c'est que pour moi, quelqu'un qui code, il code, que ce soit dans Unity ou dans Unreal, il fait sa ligne de code.
Oui, ça va.
50 vies, alors rouge, tu vois.
Ça, vraiment, je pense.
Je suis pas prêt à faire du code.
Waouh. T'as raté une carrière.
Je suis animateur, hein, je vous l'ai dit, moi je fais pas de code. Hein.
Ouais, moi je veux bien coder en Steve. Moi. C'est facile.
C'est un langage, hein, du tout seul, ouais, c'est ça.
Parce que j'ai pas trop touché, mais j'ai vraiment que c'est l'accès et l'implémentation qui va être beaucoup plus simple sur
D'accord.
Unreal, quoi.
On en parlera certainement avec les tech artistes plus en détail, je dirais.
Je pense qu'ils auront plus d'infos.
Ouais.
Okay. Donc du coup, tout ce qui est particules, c'est vraiment le truc qui est, comment dire, commun à tous les moteurs de FX.
Enfin, les moteurs de FX, ça veut pas dire grand chose aussi.
Bah,
les outils.
Les outils de FX, voilà.
Globalement.
Ça veut pas dire.
Oui, la logique même des FX. Alors, presque. La logique des FX en temps réel, c'est les particules.
Ouais.
Maintenant, il y a des nouveaux outils qui se développent, entre autres sur Unreal, qui permettent de faire plus que ça. En fait, la logique de ce qu'on appelle les FX temps réel, c'est ça. Après, en fonction des boîtes, en fonction des jeux, en fonction des intentions, on peut avoir un peu plus de, je sais pas, d'animation, de un peu plus de lighting, un peu plus de choses et d'autres qui seront pas directement des particules. Et dans les outils, tes effets visuels, par exemple, il y a Unreal qui a développé des technologies comme par exemple maintenant il y a des volumes, des calculs volumétriques en temps réel.
Par exemple, pour faire voxel, si je ne dis pas de bêtises.
Alors voxel, c'est autre chose.
Ah oui, c'est vrai que c'est autre chose.
Le voxel, c'est juste la technologie qui fait de diviser un espace 3D en petites boîtes.
Ah.
Et la petite boîte peut être utilisée ensuite. Bah, Minecraft, c'est du voxel, par exemple. Mm-hmm. Chaque cube est un truc, mais les voxels peuvent être des sphères, peuvent être de plein de trucs, et ça permet de. Enfin, c'est utilisé souvent le mot voxel mal utilisé parce que c'est juste la technologie de diviser un voxel. C'est comme un pixel qui est la plus petite unité de l'écran. Le voxel, c'est la plus petite unité de volume.
Ok.
C'est juste ça. Et un texel, la plus petite unité de texture, etc. Et du coup, il y a du volume en temps réel, ce qui permet d'avoir, je sais pas, une fumée qui réagit correctement ou en courant à l'intérieur et tourbillonne autour de soi, etc. Ce qui, avant, était impossible en temps réel parce que c'était une technologie qui était trop coûteuse. Maintenant, avec les nouvelles machines qui s'améliorent, les nouveaux moteurs qui s'améliorent, on peut avoir ce genre de technologie, mais c'est encore très peu utilisé dans les jeux vidéo.
Parce que quand même très coûteux. Okay.
Bah, les derniers jeux vidéo qui utilisent du volume qui est même pas calculé en temps réel, mais des vrais volumes pour faire des nuages volumétriques, ce genre de choses. Par exemple, le nouveau Counter-Strike, leur grenade fumigène, c'est vraiment un volume qui apparaît et qui fait que quand on tire à l'intérieur, et ben, ça peut faire vraiment un trou qu'on peut voir à travers la personne qui a tiré, etc. Et ça, c'est des technologies qui étaient inaccessibles il y a 5 ans.
Et c'est pas que parce que la machine est plus puissante, c'est aussi la manière dont ils codent leurs trucs.
C'est les deux, ouais.
Ils trouvent des astuces pour...
C'est exactement ça.
Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans le FX en général, là? Sur quoi vous essayez de gratter?
Alors, ça va être très très principalement, enfin en tout cas pour nous, je sais pas si c'est pour nous les prods, mais ce qu'on appelle l'overdraw, c'est donc toutes nos particules, elles vont la plupart du temps être transparentes, c'est-à-dire que ça va être sur un billboard, donc un quad, un carré, sur laquelle on va avoir notre texture dessus. Par exemple, si c'est un rond, tu vas avoir le rond qui est affiché dessus, mais ça va toujours être affiché sur un quad qui est un carré. Je sais pas si je m'explique bien.
Alors, c'est un rond qui... Oui,
la particule, carré, en fait, ouais. Ça reste un mèche.
Quadrature du cercle. La quadrature du cercle. Je te le dis, c'est ça.
Oui. Parce que là, la particule reste un mèche carré sur laquelle, nous, on va plaquer notre texture de rond. Mm-hmm. Et du coup, bah, si on est en transparent, tu vas avoir le rond au milieu et partout sur le quad... Tu vas quand même voir le derrière, quoi. Et ce qui va être dur, c'est que dès que tu mets plusieurs couches, par exemple plusieurs ronds l'un devant l'autre, ça va faire une passe de rendu supplémentaire, donc ça va coûter pas deux fois plus cher, mais presque sur la surface où il y a ta particule.
C'est-à-dire que pour afficher ton image, le moteur va devoir calculer
une
fois de plus encore.
Chaque pixel, il le calcule, il fait sa couleur de base, il passe à travers une particule ou n'importe quel objet, il recalcule en disant bah maintenant elle était opaque à 100% ou à 200 ou à 50%, du coup il a cette couleur-là, puis une nouvelle particule, il recalcule, puis une nouvelle particule, il recalcule, puis une nouvelle particule, il recalcule.
Okay.
Et donc dans le cadre d'une explosion où tu peux avoir plein de trucs les uns derrière les autres,
si t'as un truc qui fait tout l'écran, bah rien qu'une seule fois, il va recalculer tout l'écran. Si t'as quatre couches qui se superposent sur tout l'écran, il va recalculer 5 fois.
Oh là là. Et là, tu perds tes FPS.
Et là, bah là c'est la mort. Quoi.
Tu descends à 10.
C'est la mort du FPS.
Et ça rame, comme disent les gens qui connaissent rien. Mais ça rame.
Bah oui, oui.
Et puis oui, parce qu'il faut pas oublier que sur un écran de 1920x1080, on a plus d'un million de pixels très rapidement. Donc même un calcul qui semble minime, une petite modification de calcul à faire. Si tu le fais un million de fois, ça fait beaucoup. Et si en plus, après, tu veux que ton jeu il tourne à 60 FPS, ça veut dire que pour calculer toute l'image et tout le jeu, tu as 3 millisecondes. Attends, 3 millisecondes ou alors 7 millisecondes et c'est 3 en 120 FPS. Bref, en tout cas, tu as très peu de temps pour calculer tout ton jeu et un million de fois chaque calcul pour chaque particule qui se superpose. Donc, les gens ont tendance, qui n'ont pas de connaissances techniques, je crache pas du tout dessus parce que c'est normal de pas avoir de connaissances techniques sur un milliard de sujets, à cracher dès qu'un jeu est pas à 60 FPS. Mais il faut se rendre compte d'à quel point c'est une prouesse technique quand même derrière de réussir à faire en 7 millisecondes plusieurs milliards de calculs, quoi. Des fois c'est parce que là on parle juste de d'afficher une texture de base, mais il y a en plus tout le gameplay qui est calculé derrière, tous les inputs, tous les réflexions, c'est à partir du moment où on met du ray tracing, par exemple, aussi, où c'est des rebonds de lumière, tout devient extrêmement coûteux à force, et que c'est technologiquement très important.
Vous devez vous battre pour avoir votre petite place dans ce calcul très court.
Bon. Ça va. Dans notre nous, production, ils sont gentils.
Oui.
Ils pensent à nous. On vous laisse votre petite place.
Vous avez votre enveloppe, tout ça.
Oui, vous pouvez nous faire perdre quelques FPS, c'est pas grave.
C'est le concept du budget, en fait. Sur certains jeux, c'est pas le cas sur tous, mais en théorie, il y a un certain budget qui est alloué, je sais pas, on a 30% du rendu qui est, enfin, du temps de calcul qui est utilisable par le gameplay, etc. Et puis t'as, je sais pas, une demi-millisecondes que t'as le droit d'utiliser pour des FMC.
Oui, quand tu dis budget, c'est pas de l'argent.
Non.
C'est toujours encore une autre histoire, c'est du budget de temps de rendu. Exactement. Quelque part. Considération qu'on n'a pas en animation.
Calculer, non.
Alors que pourtant, on se pose quand même la question de combien on va mettre de... Bah, après, tu as du temps de render farm, si tu veux, pour sortir tes images. Mais ce qui va... Le seul, pour le coup, là, le seul budget qui va vraiment être calculé, c'est combien ça va coûter à faire. Si tu fais une explosion de ville entière, là, je vais devoir mettre des centaines d'artistes plus des machines pendant des heures à calculer. Là, c'est mort.
Et puis, l'avantage qu'il y a en pré-calculé, c'est que tu peux très bien calculer ton FX indépendamment, en amont ou à un moment où la ferme est plus légère, et puis ensuite l'incruster à la compo. Alors que là, non, tout est en même temps, tout vas-y, démerde-toi, pédale.
Et tu pensais qu'il y avait peut-être une part de budget quand même?
Non, pardon, je pense que je parlais de l'animation dans le jeu vidéo, mais pas du tout.
D'accord. Ok, non, oui, je parlais de FX, effectivement.
Mais alors, tout ce qui est la question à la con, mais à laquelle j'ai déjà la réponse, mais vous allez la développer. à quoi ça sert, par exemple, d'avoir un moteur de Unreal, Unity, qui va pouvoir calculer du fluide potentiellement pour du temps réel? C'est pour les cinématiques?
Pas que.
Pas forcément.
En fait, tout dépend de l'intention du jeu.
Parce que pour les cinématiques, du coup, c'est du pré-calculé.
Non, ça dépend.
Pas toujours.
Ça dépend. Il y a les deux.
À des moments.
Globalement, soit la cinématique est calculée en temps réel et du coup, la seule chose qui change, c'est qu'on n'a pas la manette en main. Enfin, que la manette ne répond rien, mais ça reste les modèles temps réel, les FX temps réel, d'accord, les éclairages temps réel, etc.
Et il n'y a pas plus de
alors,
des de fois, mémoire, de trucs?
Des fois, on peut allouer plus de performance, effectivement, parce que tu n'as pas la partie de tout le contrôle du personnage à gérer. Tu sais ce que tu fais, tu sais dans quel cadre. Donc, tu peux, exemple con, mais enlever tout le background qui te sert à rien, parce que tu sais que le joueur ne va pas tourner la caméra, vu qu'il n'a pas le contrôle. Dans ces cas-là, tu peux avoir plus de performance. Mais... Et sinon, il peut y avoir effectivement des cinématiques qui sont pré-calculées. C'est une vidéo et on joue la vidéo.
Mais généralement, d'accord. Oui, donc là, c'est du pré-calque.
Là, c'est classique de
base. Oui, là, il n'y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux. Tu fais libre.
Exactement.
Okay.
Mais ça se voit généralement la différence dans un jeu quand c'est une cinématique pré-calculée ou quand c'est une cinématique temps réel.
Ouais, parce que là, du coup, tu déploies, tu décuples tes possibilités, quoi. Tu peux vraiment faire des trucs stylés.
Mais vu qu'il y a quand même les vidéos, elles sont compressées sur le jeu pour pas prendre trop de place, et ben au final on voit souvent des artefacts de compression qui sont dessus. Et puis prenons un exemple de jeu très bête, mais du coup si on fait une cinématique pré-calculée, je sais pas, de ton personnage dans Baldur's Gate, et ben il aura pas ton équipement, il aura pas ton apparence non plus.
Ah oui, alors ça c'est une notion aussi, oui, bah oui, effectivement.
Vu que c'est des choses que tu peux changer dynamiquement, on peut pas avoir enregistré tous les cas de figure sur la vidéo.
Tu comprends cette histoire de skin et de fait que tu peux pas faire ta cinématique. Moi c'est un truc que je comprenais pas avant d'arriver dans le jeu, c'est pour ça que je regarde le doc en lui demandant si tu connais. En fait, il faut bien saisir
qui
que...
Qui me prend pour un con des fois.
Mais non. Il faut bien saisir, parce qu'en animation c'est la même chose, c'est-à-dire qu'un personnage qui a besoin d'être animé d'une certaine manière, tu peux pas lui ajouter des caps, des trucs et espérer que ta vidéo elle se mette à jour toute seule. En fait, si d'un coup ton personnage il est plus à poil avec un slip et qu'il est bon, quand même un peu de respect et que d'un coup il a plein d'accessoires en plus et tout qui doivent être animés, ben là t'es coincé, tu peux plus avoir une vidéo, t'es obligé d'avoir une cinématique en temps réel justement et qui du coup va pouvoir t'afficher ton personnage avec 3 couteaux, 50 lances, une écharpe et un
slip par dessus
et un slip
par dessus
toujours ou pas quoi.
Du coup,
j'imagine qu'en FX, c'est la même chose. Tu peux pas t'amuser d'un coup à te dire là c'est plus du feu, c'est de l'eau, parce que ton magicien c'est un mec qui fait de l'eau. Et là, t'es the big, quoi.
Alors, techniquement, on pourrait un peu... Il y a plein de notions derrière de, par exemple, où on peut avoir un FX qui est complet dans sa dynamique et, en fonction de certains paramètres de gameplay, modifier soit des textures, soit modifier des couleurs, ce genre de choses, pour avoir, je sais pas si ton personnage, il peut lancer toujours les mêmes... Tout peut être prévu pour lancer un certain sort, mais que le sort, en fonction de la couleur de tes cheveux, il soit bleu, ou il soit jaune, ou il soit rose, et que ça fonctionne parfaitement quand même, c'est possible quand même.
Ok.
Oui, mais ça, du coup, tu vas, Faut tu le vas penser dire, je change la couleur en fonction de, de la couleur du slip du mec, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Espérons qu'il
mais
était...
Ça peut être, mais
si, s'il n'en a pas, le sera transparent.
Il est propre. Voilà. Non, mais qu'il est propre pour moi.
Ah oui, bah s'il est propre après.
Mais bref. Ça peut être exactement le même FX. Ça peut être le même fichier. C'est pas, on fait une version pour chaque truc. Ça peut être un seul FX, mais avec certains...
Procéduralisé en fonction de quelque chose.
Ça peut être une considération qui vous permet d'économiser justement de la RAM, de la mémoire, en fait.
Absolument.
Parce que non seulement il y a les FPS, mais il y a aussi la mémoire, en fait, allouée à ta console.
Il y a beaucoup de coups. On est aussi très limité en termes de... Pour chaque matériau qu'on utilise, donc mettre un cercle, un carré sur nos particules, ça va faire un coût en plus de mémoire. Les matériaux utilisent des shaders spécifiques qui peuvent être plus ou moins gros, qui pareil peuvent prendre énormément de mémoire. Et du coup, on est limité sur tout ça, donc on a trouvé le meilleur moyen de fabriquer notre FX en utilisant le moins de ressources possible.
D'où le fait, tout à l'heure, tu parlais de l'image, vous parliez de l'explosion avec les 64 images. Mm-hmm. C'est faire une explosion avec 2000 images, ça va prendre beaucoup plus de mémoire que juste les 64.
Alors, techniquement non, parce que vu que tout est remis dans une seule image,
ça reste
que tu aies 2000 petites images dedans ou 64 petites images dedans, ça ne change rien. Sauf
ça reste
si tu...
une image au final.
C'est ça, sauf si à la fin, tu fais que... Parce qu'il y en a 2000, tu fais une texture qui fait cette... Je mets un très grand écart entre mes doigts.
Oh, c'est impressionnant.
Tu fais ça, alors que si tu mets 64, tu fais cette taille-là. Et dans ces cas-là, oui, ça pèse beaucoup plus lourd, le fichier est plus lourd.
D'où le fait que dans les paramètres de jeu, souvent, on est là, texture 4K, lol. Parce qu'après, ton PC, il a du mal à afficher tout ça.
C'est lourd.
Et en autre considération, où je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a toute une question qui se passe sur à la base des FX, qui sont, est-ce que c'est des FX qui sont calculés au CPU ou au GPU.
Donc au processeur central ou au processeur graphique de ta carte graphique.
Exactement.
RTX, mes genoux.
Parce qu'en réalité, c'est pas du tout la même chose. Enfin, il y a des possibilités que tu peux faire que dans l'un et d'autres que dans l'autre. Il y a certains moteurs qui peuvent faire les deux, certains moteurs qui ne font que un. Par exemple, nous, c'est que CPU.
Ok.
Parce que le Shuriken ne permet pas de faire du GPU, tout simplement de base.
Donc ça te limite.
Sous Unity.
Bah, voilà. Ça limite
dans notre cas,
sur
potentiellement, il y a des choses après que je suis pas au courant.
Baptiste, ça limite sur...
Ça limite beaucoup sur le nombre de particules, par exemple.
Par exemple, oui.
Ah ouais, j'ai rien que ça, quoi.
Mm. En fait, le processeur de GPU est beaucoup plus rapide que le processeur de CPU.
Mm-hmm.
Donc, il peut juste gérer... tu peux facilement faire un facteur 10, voire un facteur 100 sur les particules sans problème.
Ah oui, d'accord, ok.
Putain, ah oui, quand même.
Oui,
ah
oui c'est pas rien.
Oui,
ouais.
C'est énorme.
Mais alors, pourquoi est-ce que Unity fait ça?
Pourquoi?
Mais, en échange... tout ce que tu envoies au GPU a un coût. Donc, tout ce que tu envoies des données que pourrait avoir ton ordinateur à ton GPU, ça ralentit l'affichage des images. Ce qui veut dire, par exemple, que si tu as besoin... Comment ça? Vulgariser ça sans partir trop dans le technique. Si tu as besoin d'une information simple, comme la position de ta particule, pour savoir si elle rebondit sur un mur.
Okay.
Tu as besoin de savoir... Tu as besoin qu'il y a quelqu'un, à un moment, qui calcule est-ce que ta particule, elle est sur le mur.
Mm-hmm.
Sauf que le mur... La position du mur dans le jeu, etc., et la position de ta particule, c'est des choses que gère plus le CPU et pas le GPU.
Le GPU, lui, il affiche les choses.
C'est ça. Lui, il affiche les choses. Il peut t'en afficher plein. Ça coûte pas plus cher d'avoir ton image qui est rendue une fois que ton image qui est rendue deux fois. Enfin, presque pas plus cher. Mais du coup, en GPU, tu ne peux presque pas faire de collision. Entre tu balances quelque chose sur une particule sur un mur, ce qui est très simple en CPU, c'est très compliqué en GPU. Et dans ces cas-là, tu triches de partout, tu utilises des passes de profondeur, et tu vois si la passe de profondeur, t'es au même endroit dans la valeur pour savoir si tu peux faire rebondir, etc. Mais sinon, tu peux pas. Et ce qui fait...
C'est passionnant.
Vache.
On pourrait faire un podcast entier. Mais avec les tech artistes aussi, je pense... est-ce que c'est eux qui pourraient parler plus de ça, ou c'est plus les ingés?
Plus le...
plus les devs,
ça dépend,
plus les...
Ça dépend
de quelle partie.
Ouais. Parce que ça a l'air hyper précis, quoi.
Tech art, c'est tellement large qu'il faut savoir. Ou...
Et est-ce qu'il n'y a pas... Un génie du moteur de FX qui pourrait utiliser le CPU et le GPU dire tiens, quand c'est pour calculer un truc,
il y en a plein. Même Unreal, il permet de faire ça.
Unity peut aussi.
Unity, je sais pas si il peut faire, si Shuriken peut faire du GPU.
Non, mais VFX Graph.
Ah oui, peut-être. Je maîtrise pas VFX Graph.
Comment c'est quoi
VFX Graph, c'est le Shuriken amélioré, qui est la dernière version qu'ils ont sortie, que nous on n'a pas utilisé pour des raisons. qui lui permettait plein de trucs très très cool, comme utiliser sur le GPU par exemple.
Ok.
Et du coup, si on l'avait, on aurait pu utiliser les deux facilement.
C'est passionnant, moi j'aime, je peux en parler.
Oui, c'est comme en fait dans le précalculé, pardon, je fais une analogie avec le précalculé par rapport à le fameux XPU qu'on appelle, notamment qu'il y a dans Renderman, le moteur de rendu qui permet de calculer justement des histoires de profondeur, des histoires de fog, des histoires de lumière, de ray tracing, de path tracing et compagnie. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas. Je fais genre, mais en fait, voilà. Mais oui. En tout cas, dans les derniers moteurs de Renderman, le 25 et le 26, si j'ai pas de conneries, ils utilisent maintenant le XPU, donc justement la répartition des charges entre le processeur central et le processeur ou les processeurs graphiques pour les machines qui ont plusieurs cartes graphiques.
Ok.
Ce qui permet justement d'avoir, il y en a un qui est plus costaud que l'autre, exactement ce que tu disais, quoi.
Ouais. J'ai le souvenir, ouais, quand je faisais du précal aussi, qu'on était que avec des moteurs de rendu qui se basaient que sur le CPU et qui étaient très longs, mettaient une heure par image.
Oui.
Et que pendant, à la fin de mes études, il y a les premiers moteurs, alors peut-être que ça existait déjà avant, mais en tout cas qui étaient popularisés pour le public, qui permettaient d'utiliser le GPU, qui étaient Redshift et Octane, je crois, et qui, eux, ont commencé à utiliser le GPU, et des images qui mettaient une heure et demie à être calculées, elles sont calculées en 10 minutes d'après.
Ouais, ok.
Et puis aussi pour les différents cœurs. Parce que dans le CPU, il y a eu, dans le processeur central, il y a plusieurs cœurs. Il y a des fois 16, 32, 64. Et du coup, ils peuvent l'utiliser en parallèle. Et pas juste, j'envoie un calcul, le CPU calcule. Et il me renvoie la donnée. Là, je peux envoyer, s'il y a, n'importe quoi, 24 cœurs, il va pouvoir faire 24 calculs en même temps.
Mm-hmm.
Et donc, paralléliser les calculs. Donc, alors, peut-être pas 24 fois moins, ou en tout cas, pas 24 fois plus rapide, mais en tout cas, largement plus rapide que si tu envoies un seul calcul.
Peu comme si, pour vulgariser à l'extrême, tu rentres dans une pièce, il y a deux personnes. T'essaies de donner une info et les deux personnes essaient de récupérer un max de ces deux-là. Et tu vas dans une autre pièce, tu donnes la même info, mais il y en a 50. Bah, d'un coup, les 50 peuvent faire plein de choses en même temps que les deux personnes avant mettaient beaucoup plus de temps à faire.
Oui, ou alors tu vas le dire à une personne dans l'oreille sur les 50, tu le dis à une personne, tu le dis à une autre personne, tu le dis à une autre personne. Là, tu rentres, tu gueules un grand coup et c'est bon. Tout le monde a compris l'info.
Très bien. Ouais, je trouve ça cool parce que c'est pas forcément évident les calculs dans les processeurs.
Ouais, il y a un côté c'est pas sorcier. Hein,
oui, c'est vrai.
Est-ce que je vois l'heure qui avance, mon Dieu. Quels sont pour vous? On va le faire après. On va le faire en CG Beers, celle-là.
D'accord.
Voilà, on s'en garde un petit peu sous le pied. Avant de passer à la surprise que les bipèdes connaissent, mais que les invités peut-être ne connaissent pas parce qu'ils n'écoutent pas notre émission.
Pourtant.
Il y a une petite surprise.
Faut l'écouter relativement récemment, celle-là, pour la connaître.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Karaoke.
Ah, désolé, c'est pas ça.
Non. Avant ça, quel est le FX chacun dont vous êtes le plus fier?
Waouh.
Ah.
Mais
chaque fois il lui fait une passe. Vas-y, démarre-toi.
Je vais en prendre un sur Prince of Persia.
Il a tapé sur le micro. Si vous l'avez entendu.
je dirais que c'est celui. Il faut que j'en vois, du coup, ça va être compliqué. À un moment, le personnage principal.
Ouais, réfléchis-nous pendant ce temps-là.
Il peut marcher sur un espèce de mur invisible.
Mm-hmm.
Qui est un fils qui est assez petit, qui est assez simple, mais on a eu beaucoup de temps à le concevoir parce que c'est un peu l'identité de la marque, pour le coup, parce que c'est un pouvoir du temps. Et j'ai beaucoup aimé le faire parce que ça. Déjà, il est joli, il est plein de couleurs et tout, ça brille. Et on a utilisé pas mal de techniques de réfraction qui va du coup modifier ce qu'on voit derrière. Enfin, on a une plaque transparente et on va modifier du coup ce qu'il y a derrière cette plaque, comme si on voyait derrière de l'eau, etc., derrière du verre brisé.
D'accord.
C'est compliqué à expliquer.
Ouais, finalement. Hein.
Oui, des aberrations chromatiques presque ou des choses comme ça, non ou...
Pas exactement. Enfin, c'est vraiment vrai quand tu regardes dans un verre d'eau et que l'image est déformée derrière. Quoi.
D'accord.
Comme une loupe bizarre.
Diffraction.
Ouais. Moi, je pense qu'on voit. Hein, c'est vraiment quand on regarde à travers une bouteille d'eau et la gueule de votre pote derrière est toute bizarre.
Et c'est un truc qu'on voit.
Non, ça c'est parce que t'as bu.
Ah merde. Ok. Et donc, c'est donc un pouvoir que Sargon, on peut le dire, hein, le personnage, il a un dash, comme on dit, dans les airs. Et en fait, pendant qu'il fait ça, il... en animation, ça a été une référence d'ailleurs où il marche contre un mur.
Ouais, on a vraiment fait les références aux anciens.
Voilà. Et donc, comme il fallait pas qu'il marche dans le vide.
C'est ça, on a mis, faut un espèce de mur, quelque chose sur lequel il s'appuie. On m'a dit, il s'appuie sur, il tord l'espace avec ses pieds, il s'appuie dessus. Je sais pas trop quelle est
la vraie. Une distorsion derrière.
C'est une sorte d'effet cristallin, en fait, où t'as l'impression qu'il prend appui sur quelque chose.
Et on a fait pas mal de recherches dessus. J'étais beaucoup aidé par les collègues. Et on a réussi à avoir un effet qu'on trouvait vraiment joli.
Il est hyper satisfaisant, c'est vrai. Même évidemment, je suis biaisé, mais il y a même au son et tout. Il y a un truc, tu le fais tout le temps une fois que tu l'as. Donc c'était important aussi.
Oui.
Ça aussi, c'est un truc qu'on n'a pas forcément parlé, mais c'est la récurrence de vos FX et l'importance de faire un truc chargé, pas chargé, lisible, pas lisible. Ouais, c'est ça, combien de fois on le voit ? Est-ce qu'on le voit de manière multiple ou est-ce qu'on le voit une fois à un moment donné précis ? On en parlera peut-être pendant le CG Beer, c'est peut-être comment on aborde ces différentes situations.
Parce que il y a aussi tout le côté qui est différent par rapport à l'animation traditionnelle, qui est que nous, à chaque fois qu'on lit notre FX, il a, sauf si on le veut, mais il aura pas exactement la même tête que la fois d'après.
Alors, je le note et on en parlera.
On en reparlera. C'est ça la subtilité aussi.
tu comprendras.
Ah oui, non, d'accord, ok.
Tu comprendras dans l'émission d'après.
Du coup, Noé, ton FX dont tu es le plus fier de ta carrière.
Alors, de ma carrière, ça sera quelque chose sur Prince of Persia aussi, parce que j'ai beaucoup aimé tout le travail dessus.
Pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Les bipèdes. Achetez le jeu. Comme ça, vous verrez de quoi qu'on parle. Et en plus, le jeu est vraiment bon.
C'est gentil.
Et très bien.
Et je n'ai aucune action. Je suis le seul de autour de cette table à ne pas travailler, à avoir travaillé, en tout cas à Ubisoft.
Au moment où il sort. En plus, il y a des choses intéressantes qui vont arriver.
Oui. Oh là
là. Ah, ça sera un très bon moment pour mettre les mains dessus, c'est vrai.
Eh ben, allez-y, mettez les mains dessus. Donc Noé, pardon, je t'ai interrompu.
Du coup, ça serait sur Prince of Persia. Et moi, je suis arrivé en cours de projet, contrairement à Baptiste qui arrivait beaucoup plus tôt que moi. Du coup, j'ai principalement bossé sur des sortes de mini cinématiques qui se passent lorsqu'on fait des attaques synchronisées avec des ennemis. Et je pense que je citerai celle contre Asdaa. Pour ceux qui ont fait le jeu, vous voyez de quoi je parle. Sinon, c'est un moment où vous faites casser la figure par un ennemi qui vous envoie un énorme rayon laser dans la tête. Et j'ai beaucoup aimé dessus. Alors moi, il y a beaucoup moins de côté... C'est pas un effet de gameplay, donc il n'y a pas le côté récurrence aussi, qui doit être aussi snappy, qui est aussi bien timé. Mais c'est beaucoup plus comme une cinématique traditionnelle. La caméra est calculée, tout est toujours la même chose. Mais j'ai beaucoup aimé la réal et l'intention derrière. Beaucoup de références à c'est très graphique. Il y a des gros aplats de couleurs, des gros traits de calligraphie. Il y a des grosses références du classique dans ce jeu, à des mangas, des animés. Il y a du Dragon Ball. Il y a des moments où il y a un fondu au blanc avec des cailloux qui montent vers le ciel, quoi.
D'accord.
Oui, ça change des FX de voiture pour le coup.
Ça change des FX de voiture.
Oui, c'est logique, forcément. Oui. Bah, on était dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, je pense.
Oui.
Et puis beaucoup plus stylisé aussi.
C'est ça. De mon point de vue, je préfère beaucoup travailler sur ce qui est stylisé, ce qui a une vraie direction artistique, plutôt que juste essayer de reproduire la réalité, qui est quand même vachement moins fun.
On parlera de vos références après. Ok, ben merci les garçons. Donc, fin d'émission.
Rime avec
Ardisson.
Voilà.
Moment Ardisson. Aujourd'hui,
il est cancellé. Peut-être qu'il est cancellé à l'heure où on parle, à l'heure où l'émission est diffusée. Mais enfin bon.
Il va falloir que je trouve un autre nom.
Ah, il va falloir, oui.
Du coup, je prends la relève. Enfin, en tout cas, dans ces questions. dans ces interviews. Enfin, en fait, c'est une interview un petit peu décalée.
Ok.
Par rapport à votre métier, etc. Okay. Donc, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de.
Tous les deux, l'un après l'autre.
En même temps, je vous pose une question et vous répondez l'un après l'autre, bien évidemment, mais voilà. Et c'est une interview portrait chinois.
Okay. D'accord.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Vous connaissez le jeu du portrait chinois?
Ah non, moi je connais pas.
Ça me dit rien.
Tu connais Noé connaît apparemment.
C'est genre si t'étais une couleur, si t'étais un animal, si t'étais.
Exactement.
Ah, excellent, je connaissais pas.
On en apprend des choses. Si vous vous emmerdez, vous pouvez jouer au portrait chinois avec vos amis. Non, il y a beaucoup d'autres jeux qui sont beaucoup plus intéressants.
Si vous écoutez le podcast à plusieurs, confrontez vos réponses.
Ça peut être un jeu à boire aussi. Si votre taf était un film, qu'est-ce que ce serait? Oh là là! Ah ouais, Et c'est compliqué, hein?
Si.
Ah, Si, Noé, ah bah, Noé une réponse. Dit. Alors, animé ou pas, hein, moi je ne fais aucune distinction entre les, oui, les dessins non, animés et les machins. C'est un médium, d'accord, les films d'animation, les machins. Un film.
Alors, purement visuellement, en prenant des comparaisons de le taf sur Prince of Persia et du film, moi je dirais Across the Spider-Verse.
Ok. Ma pique est la reine.
Eh oui.
Ok.
Parce que déjà, y a, visuellement, il y a beaucoup de choses. Il se passe un milliard de choses à l'écran, très coloré, très, très visuel. Et je pense que ça correspond très bien à ce qu'on a fait sur, sur Pop. Même si c'est pas visuellement la même chose, mais.
D'accord, ok.
Et Baptiste, qui s'est fait couper l'herbe sous le pied.
T'as mec à répondre en premier.
Moi, tu peux dire le premier.
Deux.
Oui, voilà, c'est ça.
Non, mais c'est vrai que c'est une super bonne analogie, parce que c'est vraiment, ouais, c'est. Bon, déjà, niveau animation, c'est. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est un de mes films préférés. Et ouais, bah, c'est partout des couleurs, c'est hyper stylisé. Chaque scène est maîtrisée à la perfection. Enfin.
Ok.
J'aurais donc, même pas quoi dire de plus.
C'est possible. On partage certaines rêves, donc c'est, ouais. ça aide. Mais, et puis, même hors visuellement, le fait que ça, qu'il y ait des FX et ça ressemble à des FX, il y a vraiment le côté. Le côté où on sent que c'est artistique derrière, qu'il y a une volonté, qu'il y a une DA et que la DA sert à exprimer certaines choses et que c'est un petit peu ce qu'on essaye aussi de faire avec notre métier. Quoi.
Si votre taf était un jeu, alors autre que Prince of Persia, The Lost Crown, mais si c'était un jeu, alors vidéo ou non? Ah.
C'est voilà. Dur!
Parce que j'ai juste envie de sortir mes jeux préférés, mais c'est pas la question. Ce qu'il faut faire.
C'est ouais. pas la question.
Ah, bah oui.
Non, c'est vraiment si votre boulot était comparé à. Enfin, si vous compariez votre boulot à un jeu.
J'ai une idée.
Le portrait chinois.
Non, pas... Je sais pas si vous vous souvenez de Bissiège, qui est un jeu vidéo.
Ah oui. Ah oui.
Où le concept, c'est qu'on a. Il y a un objectif qui est. Qui dépend de chaque niveau. Mais qui est globalement souvent détruire des trucs.
Ouais.
Et on vous file plein de pièces, limitées par niveau, mais à la fin, vous faites un peu ce que vous voulez, que vous assemblez ensemble. Ça peut être des bouts de bois, mais comme ça peut être des trucs qui font des explosions, ça peut être des bombes, des trucs de genre. Et c'est un peu des Lego où tu crées ton véhicule, t'assembles tout, tu relis les choses, genre quand il se passe ça, ça actionne des choses et tout, et dans le but d'atteindre ton objectif. Et là où je vois l'analogie avec le métier, c'est que... on a plein d'outils, on a plein de manières d'arriver à notre but, et on se débrouille un peu comme on peut, on triche là où il faut tricher, on fait ce qu'il faut pour arriver au but de la meilleure manière selon nous. Quoi.
Ok, intéressant.
Je suis bon. Hein.
C'est un peu trop bon. Ouais, non.
Baptiste.
Non, c'est vrai que c'est vraiment j'aurais bien dit, ouais, c'est vrai qu'un jeu de Lego, ça irait bien.
Un jeu de Lego, ça.
Après, je joue pas beaucoup à ces jeux-là, mais.
C'est pas grave.
Non, c'est vrai que, enfin, je reprends ce qu'il a dit, c'est vraiment un truc qu'on va. On va aller chercher un peu tout ce qu'on aime dans plein de références, etc., les assembler. Et c'est vraiment tester plein de trucs, mais presque aléatoirement, quoi. On va se dire, je vais mettre ça, on va voir ce que ça donne. Oh, ça va être joli, c'est cool. Et c'est vrai que j'ai du mal à voir un jeu. Un jeu qui pourrait aller avec.
Qui serait une métaphore du VFX. C'est incroyable, ouais. Quand même. Ouais. C'est une question très difficile pour le coup. Ouais.
Oui, c'est intéressant.
Ah, du coup, faut... T'as pas de. Tu sèches ?
Je sèche de ouf.
Bon, c'est pas grave.
Ah, j'ai rien. Ouais.
Réfléchis au cas où, ouais. Peut-être pour la suite. Si votre taf était un objet. Peu importe, un objet du quotidien, du pas quotidien, du.
Le truc qui fait des explosions.
Ouais, voilà, une dynamite, quoi.
Une dynamite.
D'accord.
Peut-être un feu d'artifice.
Ah, un feu d'artifice.
Bah oui, évidemment. Oui, évidemment.
C'est simple.
Le classique. Vous n'êtes pas obligé de sortir des réponses ultra savantes.
Ah oui, non,
mais il a sorti des trucs de ouf.
On est en mode
c'est aussi le côté spontané.
T'as intimidé Baptiste Noé.
Tu n'as pas le droit d'utiliser feu d'artifice. Non.
Comment ça s'appelle, les fontaines belges, fontaines romaines, là
j'ai entendu ça hier, en plus. Comment ça s'appelle, ce truc?
Les feux de Bengale.
Ouais, feux de Bengale, voilà, ça. Merci, merci.
Non, mais ça fait partie des feux d'artifice.
Oui, j'en sais. J'ai essayé de tricher.
Une mèche de pétard.
De la poudre noire.
C'est compliqué. Un objet.
Oh. Ouais, c'est bizarre comme question, hein.
Un mixeur, peut-être.
Non, parce que pour moi, le problème des mixeurs ou tout genre de trucs, c'est que ça sert, ça fait plein de trucs. Enfin, ça fait plein de particules et ça vole partout, mais c'est pas ça qui représente le métier, quoi.
Moi, c'est un spirographe, moi, j'imagine. Tu vois, les FX, pour moi, ça, ce truc, ça fait des formes. Tu sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est joli quand même.
Là, c'est
plus du motion graphique.
Ouais,
design,
ouais
mais ça passe. Ouais. Je prends la réponse de Steve.
Ok, spirographe. Donc, spirographe pour Noé, c'est parti. Si votre taf était un aliment,
ouf,
ou un truc à bouffer, en gros.
Oh. Les bonbons là qui pétillent quand tu les mets dans la bouche.
Ah, les têtes brûlées ?
Non, en plus
les
de...
Frenzy Petzy.
Putain, j'ai plus le nom.
Il y en a plein, hein. Ouais. Les bonbons qui pétillent, c'est pas les têtes brûlées.
Ça pétille pas, ça brûle.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Un truc qui crépite.
Ouais,
là,
ça crépite dans la bouche, là.
Ah, oh, je vois ce que tu veux dire. Même ça, tu l'entends dans ton crâne tellement ça... Ouais, je vois exactement. Alors oui, bonne chance pour retrouver le nom du bonbon, mais...
Et moi, je partirais sur une pizza.
Pourquoi
non? Oh.
Parce que on a le concept de base, mais on peut le faire de plein de manières différentes.
On a tous le concept. Ouais.
Le but d'une pizza, c'est que ça soit bon. Nous, le but de notre métier, c'est que ce soit beau. Il y a plein de couches, il y a plein de trucs qu'on rajoute dessus, des ingrédients, des choses qu'on met différents.
Ça, c'est marrant.
Et au final, ça, il y a plein de manières de faire des pizzas. Il y a plein de pizzas différentes, mais le reste, ça reste un FX, ça reste une pizza, quoi.
C'est une pâte à pain avec
ça
des
reste,
trucs dessus.
Ça reste une pizza. Ça fait plaisir quand on le voit ou quand on le mange. Ouais, et c'est composé de plein de trucs différents. Voilà.
C'est beau.
Et le dernier, si votre taf était un autre taf dans un autre domaine.
Oh.
Mmh.
Ah.
Dans un autre domaine que le jeu vidéo ou que l'artistique?
Que le...
Parce que c'est vrai que c'est artistique.
Si c'est artistique, c'est dur.
Mais c'est
que
c'est
le jeu vidéo
tête.
Éventuellement. Ouais, allez. Que le jeu vidéo et l'animation. Ouais. Allez, <pas
l'écoler. rire> c'est vrai qu'animateur, finalement.
Alors. Ah.
Mmh.
Pizza YOLO.
Pizza, final, bah oui.
Magicien.
Oh, bah oui, évidemment,
yes. C'est beau.
Évidemment, le précurseur des vidéos FX
exactement.
Était magicien. Donc,
et oui, monsieur là. Méliès.
Mais oui.
Voilà.
Ok, c'est bon. Drop the mic.
Ouais. Et là, Baptiste, c'est là, putain, je encore, j'allais sortir Coco le clown.
Pour rester sur les feux d'artifice, c'est Non, c'est pas pyrotechnicien.
Si,
c'est
si,
ça,
pyrotechnicien.
C'est aussi.
Ouais, ouais, ouais. Ou artificier, voilà. Je crois que c'est un peu la
même chose. Ouais,
artificier, tu fais pas plus juste des explosions, genre destruction de, genre
c'est
de bâtiments, genre de choses.
Ouais. C'est possible. Artificier, c'est peut-être juste faire péter des bâtiments.
Et pyrotechnicien, t'as l'aspect artistique en plus, c'est bien.
Ouais.
Ouais.
Je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote sur le podcast, mais la première fois que je suis allé à Pôle emploi et que j'ai essayé d'expliquer le travail d'animateur, le mec avait pas compris, il a dit oui, vous travaillez dans les explosions, tout ça là. Et je lui dis oui, vas-y, parce qu'à l'époque, laisse tomber. Je voulais juste avoir mes thunes. Et puis, le premier mail, le premier offre d'emploi que je reçois, c'est pyrotechnicien, justement.
Oh, ça va être
parce que le mec avait compris feu d'artifice, explosion, feu d'artifice, tu vas faire des feux d'artifice.
C'est de l'animation, ça.
Désolé, mais c'est pas vraiment
oui, c'est ça. Ça fait prout. Eh ben, merci beaucoup, messieurs.
Merci.
Merci,
que vous avez
merci, Noé.
Éventuellement une référence
oui.
particulière à partager à nos bipèdes, patrio bipèdes, à nos bipèdes, simplement.
Prince of Persia de Lost.
La vache, ça c'est sponsor là. Il n'y a pas de. On vous assure qu'on n'est pas payé par Ubisoft.
Ah si, vous êtes payé par Ubisoft.
Oui, nous techniquement.
Non,
oui,
mais en tout cas, le podcast n'est pas absolument pas.
Non, c'est juste parce que c'est quand même un projet où je pense que on est tous très fiers d'avoir travaillé dessus et parce qu'il a réussi à amener à développer plein de trucs. Enfin, personnellement et en tant qu'équipe, il y a quand même des très beaux. C'est très très beau ce qu'on a réussi à faire et donc je veux le recommander pour que. Hors mon aspect où ça me potentiellement ferait gagner de l'argent, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, c'est juste que ça permettrait à plus de gens de voir le travail de tout le monde et je pense que ça peut être très bien parce qu'il y a des bonnes références à prendre dedans, parce qu'il y a, quand même un très bon travail de réel qui a été fait derrière.
Mais par exemple, en termes de chaîne YouTube, de choses comme ça,
ouais,
ou
un truc qui vous inspire dans votre travail, ouais.
Ah, de qui nous inspire dans notre travail.
Ouais, bien sûr. Bien sûr.
Ah, voilà, ça va être plus être des liens parce que je n'ai pas les.
C'est bien un jeu, mais je me souviens
après,
même plus du nom.
Donnerez éventuellement des liens,
ouais.
des chaînes, des choses comme ça, on les mettra exactement.
Pardon, je voulais pas te couper mon doc. Désolé. Oui, on en parlera, vous me filerez les liens. Et
ouais,
voilà.
ouais. Il y a plein de trucs très cool.
Ouais.
Plein de gens très talentueux.
Baptiste est perdu dans ses pensées.
Je cherche un nom de jeu et ça me. Ah,
ah oui, c'est vrai pour du portrait chinois.
La réponse dans le CG, bien, c'est le cliffhanger de fou.
Un jeu qui a une grosse référence en FX et.
Bon, d'un coup,
je ne serait-ce que moi, le dernier Baldur's Gate, tous les effets de magie, etc., qui sont dedans, je trouve absolument très, très, très cool.
Mm-hmm. Ok.
Ah, c'est ça.
Oui.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Baptiste et Noé, de nous avoir permis d'en apprendre un peu plus sur les FX de jeux vidéo, puisque je rappelle que nous avions déjà une émission de FX avec Juan Pablo de la Rosa.
Tout à fait.
De la je sais pas quoi.
Oui,
mais on l'embrasse s'il nous écoute. Mais sur les FX de films d'animation. En attendant, merci de nous avoir écoutés. Merci, mon petit Néo.
Merci à vous, messieurs. Merci, le doc. Et on continue dans le CG Beers, évidemment.
Oui.
Et merci à tous de nous écouter, les bipèdes.
Continuez. Gros bisous.
Bisous.
Bisous. Ha 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 ha!